bien, je crois que nous allons pouvoir commencer cette première table ronde de l'après-midi, dont l'intitulé est, comme vous le voyez, Voyager dans l'imaginaire spatial, partir loin. Et pour ce faire, nous avons autour de cette table quatre auteurs qui ont créé chacun des univers extrêmement denses et fouillés. Alors, si on commence par là-bas, nous avons Christian Desrouillers, qui est l'auteur du cycle de l'Homme Arbre, trois volumes qui étaient déjà sortis, et le quatrième qui vient de sortir juste pour les imaginaires, donc, et qui est que de dit, si je ne me trompe. À côté de lui, Laurent Jeannefort, alors qu'il faudrait excuser parce que le pauvre souffre d'une extinction de devoirs. Et ça tombe mal parce que je comptais le faire beaucoup parler. Donc ça risque de ne pas s'arranger. Mais donc, Laurent Jeannefort, dont on connaît son cycle de mal, qui vient d'être réédité en deux volumes. Et tout à fait récemment, vient de sortir aussi un roman inédit qui s'intitule L'humaine, dont nous allons parler. Alors, à côté de lui, Laurence Sumer, sans tréma sur le but, contrairement à ce qui est écrit par. Elle m'a demandé de bien assister dessus. Donc, c'est Laurence Sumer, et qui nous a écrit une très belle trilogie qu'on pourrait qualifier quelque part d'archéologie spatiale, qui est la trilogie de Quantica. Et enfin, à côté de moi, Pierre Bordage, alors, qui a écrit nombre de space opéra. On se souvient tous des Guerriers du Silence, il y a déjà quelques années, on peut le dire. Plus récemment,
cette jeune femme, en haut, décide de lancer une expédition à travers la carapace de glace et va graduellement découvrir des vestiges qui sont enfouis, donc d'où le titre du premier bouquin, qui sont enfouis sous la carapace de glace. Et là, l'histoire débute réellement avec toute une série de catastrophes liées à la présence d'une entité prisonnière sous la carapace de glace. On se rendra compte petit à petit au fil de la trilogie que cette planète a été glacée artificiellement pour protéger, en fait, écarter une menace potentielle.
Oui, c'est très large,
c'est très très résumé.
C'est vrai qu'on aurait pensé toujours très difficile de résumer un livre sans faire trop de spoilers. C'est vrai qu'on est là vraiment dans l'archéologie spatiale, parce que là c'est la découverte des vestiges d'une ancienne civilisation mystérieusement disparue 12 000 ans avant.
Ça commence comme une mission archéologique, c'est-à-dire c'est un groupe de chercheurs, il y a une vingtaine de chercheurs. Des géologues, des glaciologues, il n'y a pas d'archéologues, parce que c'est une étrangère. Et bon, ils font office d'archéologues, de scientifiques, voués à découvrir justement une cité enfouie. Et dans ces ruines, il y a des textes. Donc il y a tout un travail d'épigraphie, c'est-à-dire de récolte des textes. Et il y a un professeur qui va tenter une traduction de ces textes. Mais bon, il se passe plein de choses.
C'est vrai, on va revenir dessus parce que après. Alors, je passe la parole ensuite peut-être à Christian Léaumier pour ce cycle de l'Emmeur, qui est un cycle que vous avez commencé il y a déjà pas mal d'années. Moi, je me souviens d'avoir lu les premiers volumes chez lui il y a un certain temps maintenant.
Alors, effectivement, c'est un volume sur lequel j'ai lu.
Une des explications, parce qu'on est dans un système où bon, il faut expliquer pourquoi c'est l'humanité. Et en fait, il y a deux explications. Une des explications qui est l'explication endogène, c'est-à-dire le but de ce monde, c'est effectivement qu'il y a eu un ensemencement de différentes planètes pour créer des mondes différents et voir un peu comment les hommes se débrouillaient, comment ils étaient capables. Quelle était la multiplicité des sociétés qui pouvaient engendrer.
On va continuer à laisser peut-être l'orange une force reposer un tout petit peu la voix, donc Pierre Cordage, où vous avez écrit de nombreuses œuvres d'expansion spatiale, mais comme je disais, plus récentes, parce que chez vous, c'est très varié.
C'est trompé l'ennemi.
Voilà les sujets que vous abordez. Et si dans l'imaginaire spatial, vous voyez ici, que je trouve absolument extraordinaire, c'est les 5 volumes de la fraternité en carte. Là, l'humanité a aussi essaimé dans toutes les galaxies. Et donc, soudainement, une menace arrive. Mais en même temps, c'est chez vous. On retrouve, et ça, on en reparlera encore après, l'aspect un petit peu mystique de l'humain par rapport à la technologie. Et donc, Théa, ben, si vous pouvez nous décrire cette gigantesque
voie lactée, donc c'était bien du coup.
Voilà, c'est cette voie lactée entièrement humaine.
Je serais bien en train de décrire en tout cas la voie lactée entièrement humaine, parce que ça fera un sacré. C'est un sacré site, hein. Ça ferait plusieurs milliards de bouquins, je pense. Je ne crois pas que j'aurai le temps de le faire. La question, ça vient de dire pourquoi est-ce qu'on va dans l'espace, c'est-à-dire ce qu'on fait dans la Terre, et pourquoi vouloir créer des choses dans l'espace, et pourquoi vouloir voir l'espace, explorer l'espace, alors que nous sommes infoutus de sortir de notre système solaire et même d'aller faire la Lune pour l'instant. Donc, c'est quoi cette fascination pour l'espace? Je pense que c'est un espace imaginaire, justement, qui est vraiment colossal, phénoménal, et que personne n'est là pour nous contredire, donc c'est super. Parce que je pense qu'avant qu'on aille loin dans la galaxie, ça va prendre quand même quelques siècles, voire quelques millénaires. Et je pense avoir choisi l'espace opéra, où, en fait, chez moi, c'est double, c'est ambivalent, parce que quand je suis dans l'espace opéra, j'ai qu'une envie, c'est de revenir sur Terre. Donc généralement, je fais un cycle qui se passe sur la Terre, et quand je suis sur Terre, je m'en vais pas sur Terre, donc j'ai envie de repartir tout de suite dans l'espace opéra. Donc c'est pour ça, par exemple, les dames blanches, il y a un cycle qui se passe sur Terre, donc la Terre est une planète, donc c'est la planète opéra, je confirme. Et ensuite, le prochain qui paraîtra chez GBU sera aussi un espace opéra. J'ai besoin de ces grands espaces imaginaires, et je ne me donne aucune limite, même pas les limites scientifiques, parce que je pourrais comme sur la planète gigante qu'on a créée avec Alain Gourset. Elle est totalement impossible scientifiquement, mais on n'a pas trouvé le contraire, donc pour l'instant elle est viable, jusqu'à ce qu'une exploration scientifique nous demande que ce n'est pas possible, parce que c'est une planète qui est une fois grande comme la Terre et qui normalement devrait s'effondrer sur elle-même, mais nous avons prévu une structure incroyable à l'intérieur qui fait qu'elle ne s'effondre pas. C'est ça la planète imaginaire. Bon. Et je pense que, alors vous avez parlé de l'aspect mystique de l'imaginaire, je pense qu'il est indissociable pour moi en tout cas, c'est-à-dire que ce qu'on va chercher loin dans l'espace, c'est probablement ce qu'on va chercher loin à l'intérieur de soi-même, et probablement ce qu'on va chercher les qualités humaines ou les défauts humains. Je cherche le mot que je ne trouve pas, bon, bref, exalté, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans les situations difficiles comme le voyage spatial, j'ai été, par exemple, mon frère Ewen, où on a un personnage qui reste 80 ans dans un vaisseau, confronté à sa solitude, voilà, comment vaincre ça, qu'est-ce que ça va dégager, qu'est-ce que ça va enclencher en lui, c'est ça qui m'intéresse. En fait, j'ai l'impression que l'espace n'est qu'un décor pour que les gens soient, pour confronter l'humain encore plus à lui-même, qu'il ne soit pas, parce qu'il perd tous ses repères, tout simplement. Et que donc il faut qu'il se crée de nouvelles, comme ça, un élargissement de conscience. Alors peut-être que le space opéra ou l'espace, c'est justement cette image de l'élargissement de l'intérieur de l'être humain. Et ça ne nous dit pas ce que c'est que les galaxies, hein, je suis d'accord. Je vais essayer rapidement de ne pas répondre à la question.
Cela dit, vous décrivez quand même une planète.
Oui,
il y a quand même des esquisses de description, surtout au début.
Oui, c'est
j'écris vraiment de la neige pendant la production, c'est que je ne me souviens pas de tout. Mais en tout cas, ce que j'essaie de trouver, c'est un petit peu la façon dont je trouve, c'est-à-dire en pure immersion en écriture. Je ne fais pas une fiche descriptive de la planète avant de la découvrir, ce qui me réserve de faire pas mal de surprises. Mais c'est vraiment, j'adore être surpris. Et donc, ce sont les personnages qui découvrent la planète et qui me font découvrir la planète. C'est comme s'ils m'emmenaient dans leur vaisseau, le corps du personnage chez moi, le vaisseau spatial, qui me fait découvrir un monde un peu bizarre, un peu étrange, avec une faune étrange, une flore étrange, une gravité différente, parfois une chaleur ou une ambiance lumineuse différente. Et c'est ça qui me passionne aussi, c'est de pouvoir faire jouer l'imaginaire dans tout ce qu'il y a de plus extraordinaire à ce moment-là. Alors après, on me dit, j'ai eu un cours d'astrophysique dans les marges de mon premier manuscrit d'État du silence par Pierre Michaud, mon éditeur, Pierre, virgule. Ceci n'est pas possible pour telle et telle et telle et telle raison. Je dis, ouais, mais c'est beau ce que j'ai inventé. Oui, mais c'est pas possible. Et donc j'ai compris que là, qu'il y aurait un conflit éternel entre le poète et le scientifique. Et donc j'ai consenti au scientifique le fait que quand on est dans des lois scientifiques connues, une astrophysique connue, j'essaie de les respecter au maximum. Et quand on peut s'en échapper, je m'en échappe au maximum aussi. C'est une sorte de compromis entre le scientifique et moi. Moi, je ne suis pas du tout d'aspect scientifique, contrairement à Laurent, qui a une cohérence extrême dans ses univers. Ou Laurence, d'ailleurs, aussi. Et moi, je privilégie plutôt l'aspect politique, tout en essayant de respecter autant que faire se peut les lois scientifiques. Après, donc, ça veut dire, dans le dernier Cléopâtre, si j'ai lu là, il y a une forêt suspendue, alors qu'il y a la gravité, hein, mais elle est suspendue, voilà. Alors, on ne va pas expliquer, mais les personnages disent eux-mêmes, les grands scientifiques de la plaine disent eux-mêmes, on essaie de comprendre. Donc, voilà.
Alors, ça, c'était le scoop sur le prochain roman à venir qui sera à la rentrée.
Voilà, oui, c'est ça. Alors, moi, je n'essaie même pas de comprendre. Voilà, c'est un gros avantage.
Mais on est tous un peu pareil, en fait. Même ceux qui essayent de faire de la hard science, que ça très bien qu'on ne peut pas faire
un espèce opéra,
quelque chose de réaliste, de totalement réaliste. Et il y a des fois où on est obligé.
je vais sur l'avion.
Oui, il a calculé ses effets, Laurent Genefort a calculé ses effets spéciaux pendant son intervention.
J'aurais dû mettre sur l'avion.
Science-fiction, quand on parle de voyage, il y a l'intérêt d'une tradition littéraire. Si vous reprenez les voyages de Pantagruel, ou les récits d'exploration du XIXe, en gros, on utilise une région inconnue, des peuplades inconnues, pour essayer de. Critique ou philosophique de la société dans laquelle on est. Plus l'exploration était menée, moins il y a des espaces inconnus, et puis on a trouvé la nécessité d'aller loin. Et en quittant la Terre, évidemment, là on est à peu près tranquille pendant quelques années. Je pense qu'on sera pas contredit. Et à partir de là, il y a deux possibilités, ou bien effectivement, vous inventez des extraterrestres, une faune extraterrestre, des civilisations autres, mais c'est extrêmement difficile, c'est tellement difficile que je ne connais pas beaucoup d'exemples où vous êtes effectivement face à quelqu'un qui ne vous ressemble pas. On retrouve une certaine façon de raisonner qui est la façon de raisonner des hommes, ou alors le roman est complètement. Il faut accepter de se laisser porter par une logique complètement autre. Voilà, je pense à la cinquième tête de Cerbère, par exemple, où là vous êtes face à quelque chose que vous ne comprenez pas. Alors pendant 150 pages, c'est un peu difficile. Ou bien vous jouez la carte de l'homme et effectivement vous décrivez des sociétés humaines différentes, alors confrontées ou pas à des sociétés extraterrestres. Encore une fois, si ils sont confrontés à des situations extraterrestres, il faut qu'ils trouvent le moyen. n'y a pas moyen de les gens vaisseaux avec vous.
Est-ce que je peux dire quelque chose sur le sujet? Alors, bon, moi, je trouvais aussi intéressant, dans, là, on parle de visiter, justement, d'aller plus loin à travers, justement, l'exploration humaine. Mais ce que je trouvais intéressant aussi d'aborder, c'est que, par exemple, dans ma trilogie, on a un personnage principal qui est cette jeune exobiologiste qui a oublié son passé. Et à travers l'expérience de communication qu'elle va faire, ou de non-communication, ça c'est à voir, elle va petit à petit se redécouvrir elle-même. C'est-à-dire que c'est non seulement une quête de l'ailleurs, de la frontière cosmique, mais également, c'est-à-dire cette redécouverte, cette plongée intérieure en elle-même. C'est pour ça que ce bouquin, en fait, a été écrit comme une plongée intérieure dans ses vestiges, dans ses ruines sous la carapace de glace, mais également une plongée intérieure pour son personnage, qui, à travers l'autre, c'est-à-dire l'extraterrestre, va se redécouvrir, retrouver son passé, son identité.
Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des humains. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas pour les autres. Et puis nous adressons à des humains, donc forcément nous allons évoquer la problématique humaine. Et je pense que la figure de l'autre, l'altérité, l'extraterrestre, c'est vraiment pour mieux, je pense, parler d'humain, c'est un effet miroir très important. Je pense que les extraterrestres, dans la période des années 40 à enfin, des années 50 à 70, c'était une façon détournée de parler de celui qui était derrière le rideau qu'on ne voyait pas, le rideau de fer. C'est toujours cette métaphore-là. Parce que sinon, le groupe Magma a essayé de faire ça avec un moment, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Magma, qui chantait en cobaya. Il venait de l'appeler cobaya. Et donc, on ne comprenait rien, évidemment. Parce que n'ayant pas une grammaire de cobaya sous le coude, on ne comprenait strictement rien de ce qu'il racontait. Donc, c'est un peu la limite du genre, si on racontait des histoires purement extraterrestres, avec une logique extraterrestre, on ne pourrait pas faire avec notre langue déjà. Parce que c'est plus une de logique humaine.
Il y avait quand même laissé cette nouvelle cesse de Kuttner, lorsque il y a ce type qui est sur la planète Mars, il est avec un martien, ils ne se comprennent pas, le martien lui sauve de la vie humaine. Laurent, vous vous souvenez,
exploration de ce que je travaille depuis toujours, en fait, je pense, depuis le début, c'est la trame, l'effet trame. J'ai travaillé ça beaucoup dans les grillons célestes aussi, hein, qui sont des espèces de grillons qui font de planète en planète pour raconter aux hommes leur propre histoire, pour garder la connaissance des autres hommes qu'on ne voit plus, parce qu'évidemment, ils vivent sur des planètes très lointaines, donc il faut des personnages qui ont une façon particulière de voyager, tout à fait peu plausible scientifiquement. Bon, on a dit que ce n'était pas grave, pour simplement rappeler aux hommes leur propre histoire. Et dans le Panka, c'est pareil, ça voulait illustrer le fait que c'est une chaîne qui se forme de cinq frères. Le Panka, c'est la racine sanscrite de Panka, ça veut dire cinq, donc évidemment tout est conçu par cinq, y compris les volumes, il y a cinq volumes. Et c'est la reconstitution d'une chaîne Panka de vie, de cinq personnages, de cinq frères du Panka, pour contrer le danger qui vient. C'est une sorte d'addition de leur capacité par la transmission d'un apport syndical qui s'appelle l'AMMA pour que le dernier de la chaîne, le premier en fait, premier maillon, soit en mesure d'affronter le danger. Donc effectivement, c'est vraiment la responsabilité humaine qui est en cause. C'est-à-dire que chaque être humain est responsable de son espèce. Je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire, et ça reprend une parole du Christ aussi, bizarrement, que ça puisse paraître, qui dit ce que vous faites le plus petit d'entre moi, c'est à moi que vous le faites. Et voilà, j'ai essayé, même à travers l'immensité spatiale et l'éloignement des planètes, etc., c'est de garder cette espèce d'idée que, en tant qu'espèce, nous avons tous une responsabilité les uns envers les autres.
Et que hommes et femmes sont
cinquième aussi.
Oui, l'avantage réussi, on rappelle vous le cacher la surprise. Il réussit à s'en sortir très élégamment, comme avec un nombre à perdre pour la Paris.
Pour la Paris. Le 5 est souvent considéré en numéro logique comme le nombre de l'être humain par excellence. Là, c'est 1 plus 2, ça fait 3, du coup. Et l'ensemble fait 5. Si vous avez compris, expliquez-moi. Moi, je n'ai pas compris. C'est l'histoire de symbolique. Parce que ça tient probablement la première lecture coup de cœur que j'ai eue dans cet univers-là qui s'appelle Dune, qui n'était pas un livre de fantaisie, bien que les archétypes soient relativement de fantaisie, mais c'est un univers de science-fiction parce que c'est un planète opéra tout simplement, donc c'est un pays imaginaire quelque part, c'est une planète imaginaire, et moi j'ai, en disant ça, j'ai éprouvé un tel vertige que naturellement quand j'ai commencé à écrire, opéra, mon premier site, c'est Guerre du Silence, c'était parce que j'avais envie d'être éprouvant en tant qu'auteur, ce que j'avais ressenti comme vertige en tant que lecteur. Parce que par ailleurs, je me suis rendu compte que, alors je parle de fantasy, d'archétype de fantasy, j'aime aussi lire de la fantasy. Et je pense que ces univers-là sont très proches pour différentes raisons, en particulier sur le côté initiatique. J'ai l'impression que le refuge de l'initiatique, c'est en science-fiction. On a beaucoup de dystopies maintenant, et de choses comme ça. C'est un peu l'espèce opéra, c'est l'aventure héroïque, c'est cette fiction qui font naître les héros. Et concerne, de l'exploration, tout ça. Pour moi, l'Odyssée, c'est vraiment un voyage spatial. C'est-à-dire que les extraterrestres sont représentés par Circe, par le Cyclope, par Calypso, Scylla et tous ces personnages très étranges qu'on rencontre sur la route du Lys, enfin sur le chemin du Lys. Et donc, c'est un schéma narratif qui, à mon avis, est très ancien. Et simplement, il est un deuxième coup de cœur qui m'avait incité à faire aussi dans ce genre-là, c'est La guerre des étoiles, enfin, la fois que je l'ai fait en 77. J'ai eu vraiment c'est le même vertige que j'avais éprouvé en lisant Dune et 4 ans en lisant Fondation et tous ces bouquins-là. Il y avait une esthétique particulière qui me plaisait énormément. Et à mon avis, c'est un champ de terrain de jeu ou de création qui était assez fabuleux, sans limite. Et c'est ça qui m'a, je pense, incité à écrire le Space Opera.
Je pense qu'il y a quand même une dimension de la science-fiction qui est le réalisme. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des mondes paradoxaux, enfin, où ça peut être l'esprit du merveille, ça peut être la fantaisie, sa légitimité. Mais la science-fiction a quand même, se présente quand même comme quelque chose, un récit réaliste, même si. C'est un réalisme qui est quelque part truqué, c'est-à-dire lorsqu'on évoque les voyages dans l'hyperespace, bon, tout le monde sait que c'est impossible, mais c'est un truc, enfin, je veux dire, c'est un mot pour dire on voyage loin en peu de temps, mais justement on emploie un mot un peu compliqué pour avoir l'air un petit peu réaliste. Et ce réalisme, c'est une dimension de la science-fiction que n'ont pas les autres genres, que les autres genres ne revendiquent pas, qui est un peu dans ses gènes en quelque sorte, et qui est peut-être l'expression effectivement d'une ambition de l'auteur de faire une analyse, j'allais dire sérieuse, c'est peut-être un peu présomptueux, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que bon. On utilise l'imaginaire, mais pour faire des analyses qui quand même se rattachent à une psychologie ou une sociologie qui s'ancre dans la réalité, dans des recherches, la recherche d'anthropologues, la recherche de sociologues, etc.
C'est pareil, en fait, je commençais à lire la science-fiction et la fantasy jeune. Enfin, je me suis rendu compte, bien que j'ai beaucoup aimé Le Seigneur des Anneaux quand j'étais enfant, j'ai lu en 11 ans en même temps que d'autres bouquins de science-fiction des auteurs américains et anglais, et également La plaine de Nathalie Enberg, etc. Et ce qui m'a tout de suite fasciné, c'est comprendre l'univers, c'est-à-dire qu'à travers la science-fiction, on cherche des explications réalistes, crédibles. Dans la fantasy, je trouvais à mon compte, en fait, parce qu'on restait au niveau de la magie, c'était très beau, ça me faisait rêver, mais mon côté un peu lourd, on va dire, n'était pas satisfait. Donc du coup, j'ai plus favorisé des lectures de science-fiction par rapport aux lectures de fantasy, et naturellement, j'ai eu envie plutôt d'écrire de la science-fiction parce qu'il y a cette dimension scientifique, et surtout de compréhension des choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est, enfin, voilà, essayer de comprendre ce qui nous entoure, comment on peut aller à travers la recherche scientifique, à travers la physique, l'astrophysique, la cosmologie, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui nous entoure, même si on ne comprend pas, même si tout d'un coup on repasse aux explications de type mythologique ou mythique, il y a toujours cet attrait pour une explication, un début d'explication rationnelle, voilà, qu'on dépasse ensuite par la suite.
Donc en fait, vous êtes Christian Véron, vous êtes auteur de science-fiction parce que vous êtes rationaliste.
Non, je ne sais pas. En fait, pour moi, la science, c'est un immense mystère, en fait. C'est-à-dire qu'à travers la science, il y a quelque chose de mystérieux, on trouve une explication. Ensuite, il y a quelque chose de mystérieux, on trouve une explication. Et de nouveau, quelque chose de mystérieux. Pour moi, c'est le plus grand mystère, c'est ça. C'est vraiment de la recherche de... Ça se complexifie, ça se complexifie. C'est ça que je trouve assez complètement fascinant. Donc, c'est pas vraiment une recherche du rationnel, mais c'est la recherche en soi.
En revanche, je revendique complètement le rationalisme.
Pas du tout, moi. Je revendique irrationaliste à fond. Tantôt, je suis obligé d'être rationnel. Hein. Là, je crois que je vais me faire un cycle de France fantasy bientôt parce que c'est trop. Mais je pense que, par rapport à l'effet de réel dont tu parles, effectivement, quand on est dans l'univers science-fiction, on a cet effet de réel obligatoire qui est, bon, voilà, les quelques lois scientifiques qu'on connaît, on essaie de les à peu près les respecter. Mais c'est quand même de la magie, des compressions dans l'hyperespace dont tu parles, et tout ça, c'est pour l'instant. pensée. Mais le côté rationnel, oui. Je vais parler tout à l'heure du côté mystique des choses. Et je pense que je me suis servi de cet outil de la science-fiction, space opéra, pour essayer de m'approcher de ce côté mystique. Parce que j'avais l'impression que peut-être que la Terre était un peu petite pour expérimenter ça. Bien que ce ne soit pas le cas souvent, mais voilà, j'avais peut-être besoin de cette projection dans l'espace pour me rapprocher encore une fois de l'essentiel, de retrouver l'essentiel de l'humain, l'essence même de l'humain, si ce n'est pas l'essence des moteurs.
Laurent Jeunefort, un petit mot sur cet aspect. Est-ce que en fait, c'est le moyen pour vous en écrivant ces univers, est-ce que c'est une manière de satisfaire la complexité du livre finalement?
Alors pour moi c'est non, et ça tient à la façon dont je travaille, parce que j'ai l'impression que c'est les univers qui s'écrivent à travers moi et non pas moi qui les écris. Et j'essaie de le contrôler le moins possible, c'est-à-dire que j'essaie de mettre le moins possible de moi, de ma raison. Pour que ce soit l'écriture qui me quitte là où elle doit être. Donc, j'ai pas l'impression d'être un livre, j'ai l'impression de ne même pas être auteur des livres des fois. Donc, j'ai l'impression que les livres passent à travers moi, ils s'imposent leur volonté à travers moi, les personnages ne font qu'à leur tête. Mon même n'a plus bien emmené. Donc,
tu touches les droits d'auteur.
Comment?
Tu touches les droits d'auteur.
Je touche les droits d'auteur parce qu'il y a mon nom sur la couverture. Oui, mais parfois je me suis dit, à un moment, mon troisième livre, je suis un imposteur parce que tout se fait malgré moi. Donc j'ai dit, le prochain livre, je maîtrise de A à Z. Et les personnages iront là où j'aurais décidé, où je veux. Et du coup, j'ai pris le livre en 50 pages. Parce qu'il ne m'intéressait plus du tout. Mais j'avais besoin d'ouvrir en permanence, donc moi je le considère plutôt comme un passeur d'histoire plutôt que le créateur ou le démiurge.
Donc en fait, vous attachez, vous faites une chaîne.
Oui, alors je ne sais pas pour les gens qui ignorent ce qu'est la chaîne de communication supérieure, mais non, enfin, je ne sais pas si, je ne sais pas s'il y a des mots pour expliquer ça, c'est purement intuitif en tout cas, oui.
Et les personnages qui ont une vie propre.
Oui, les personnages m'échappent, je ne suis pas du tout un structurant ou un architecte, comme dirait Robin Hood ici, qui maîtrise de sa narration avant même de commencer sa narration. Moi, pour moi, la narration se déroule au fur et à mesure, donc effectivement, je ne peux pas me prétendre des murs, je crois. C'est absolument impossible.
Et pour Laurent Sinner,
c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à vouloir écrire cette chose-là, je me suis dit, je vais faire un plan, c'est parce qu'à la base, c'était une bande dessinée, je vais faire un plan très structuré, puis les personnages vont faire ça. En fait, après 50 pages, ils ont commencé à faire autre chose. Et là, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis mon scénario ou est-ce que je suis mes personnages? Et ben, je me suis dit, si je suis mon scénario, je ne vais jamais y arriver. Donc, je me suis dit, pour la logique intérieure, faire des personnages pour la cohérence, je vais suivre les personnages. Et en fait, c'est ce que j'ai fait pendant toute la trilogie, c'est-à-dire que j'ai suivi vraiment là où les personnages me mêlent. Hein, je ne sais pas si ça fonctionne comme je le bien, mais en fait, ça fonctionne. C'est un peu pareil aussi, c'est-à-dire que je me fais guider par ce personnage et j'adore découvrir au fur et à mesure ce que j'écris. Je ne supporte pas de savoir avant ce que je vais écrire. J'apporte
c'est un petit peu comme quand on fait un voyage, qu'on arrive dans un pays étranger, on commence à découvrir par un hublot de l'avion, on voit certaines choses, puis après on se pose, on commence à voir les choses un peu différemment, puis après on voit des gens qui passent à toute vitesse, puis après on va rentrer dans le pays, on va prendre un taxi, on va aller à l'hôtel, on va commencer à parler avec des gens, puis on va commencer à explorer, et donc c'est comme le pays se dévoile dans son entier peu à peu. Et le roman, ça fait ça, c'est-à-dire qu'au début, c'est le regard du personnage, le hublot, puis après, on rentre avec le personnage dans le décor, dans le pays, sur la nouvelle planète, et puis cette planète se dévoile peu à peu